le samedi, 10h-10h30 sur Mega FM, la puce à l'oreille.
La puce à l'oreille.
Chef d'entreprise, acteur économique, politique, personnalité du Loiret, acteur de la vie locale. Ils vous disent tout sur Mega FM, la puce à l'oreille, avec Rémi Sy.
Bonjour à tous et bienvenue pour votre magazine centré sur ceux qui font l'actualité du Loiret et du Loiret-Cher sur Mega FM, c'est la puce à l'oreille. Chaque semaine entre 10h et 10h30, je reçois un invité politique, économique ou issu du monde associatif. Nous parlerons encore aujourd'hui de l'actualité locale et des enjeux de notre territoire. Plus de détails tout de suite, c'est dans notre sommaire.
Mega FM,
la puce à l'oreille, la puce à l'oreille, le sommaire.
Au sommaire de cette émission aujourd'hui, en direct du parc des expositions à Orléans à l'occasion de la Foire Expo, nous parlerons des activités de l'entreprise Metz SA, dont l'invité est le PDG associé. L'entreprise, nous ferons un état des lieux sur le secteur du bâtiment, c'est le secteur de l'entreprise. Nous reviendrons sur la présence de l'entreprise sur la Foire Expo. Nous parlerons de l'actualité en lien avec la vie des entreprises, puisque nous parlerons emploi et économie, avec notamment le projet de loi travail et la possible surtaxation des CDD. Nous parlerons des problématiques liées à l'Europe avec les crispations autour des travailleurs détachés. Nous aborderons les questions autour de la formation des jeunes, des chômeurs et des salariés dans l'entreprise. Quels sont les coûts, les objectifs et l'efficacité en la matière? Nous parlerons entreprise avec les thèmes de la fiscalité, du coût du travail et des normes. Gérer une entreprise et particulièrement dans le domaine du bâtiment, est-ce un casse-tête aujourd'hui? Nous parlerons de l'entreprise Metz et plus particulièrement de son projet éco-responsable développé depuis quelques années. Nous parlerons des chantiers passés ou à venir à Orléans en termes de rénovation urbaine. Quelle place pour cette entreprise? Nous discuterons enfin du parcours de l'invité, de sa carrière professionnelle et de ses engagements associatifs. Et enfin, nous parlerons éventuellement de ses projets et de son actualité. L'invité de ce matin, je vous le présente tout de suite.
Le samedi, 10h-10h30 sur Mega FM,
la puce à l'oreille.
Le portrait de l'invité.
Et l'invité ce matin, c'est Antoine Metz, PDG de l'entreprise Metz, présente sur la Foire Expo. Bonjour Antoine.
Bonjour Rémi.
Alors je rappelle aux auditeurs qui ne vous connaissent pas forcément que vous êtes effectivement PDG, je l'ai dit, de l'entreprise Metz, associé avec Christophe Guérin, une entreprise qui a fêté en 2014 ses 50 ans d'existence. C'est une fierté d'une entreprise qui a 50 ans?
C'est exact, c'est une immense fierté et c'est aussi une grande responsabilité que celle d'avoir transmis une entreprise, notamment... À ses collaborateurs et pouvoir se projeter dans un futur avec un passé de 50 ans lourd qui vous inscrit et qui vous donne des valeurs sur lesquelles nous sommes profondément attachés.
Alors aujourd'hui on est présent sur la Foire Expo. Quel est l'intérêt, quels sont les objectifs pour une entreprise telle que la vôtre à être présent aujourd'hui sur cette Foire Expo?
Écoutez, en venant à cette émission, j'essaie de retourner en arrière. Je pense que ça fait près de 40 ans que nous venons à cette foire exposition. Nous venons bien sûr par habitude, mais aussi pour cultiver notre relation avec les Orléanais et les habitants du Loiret, ce qui nous permet d'avoir des contacts tout au long de l'année pour des demandes de devis, de renseignements techniques.
Alors des contacts, vous l'avez dit, avec les clients, mais aussi les partenaires économiques. Oui. C'est important d'entretenir le contact?
Bien sûr, la Foire Exposition est un espace de relations qui est vrai et malmené par les nouvelles technologies et la communication digitale. Mais pour autant, la relation physique reste essentielle pour nous.
Alors, pour qu'on fasse un petit peu un état des lieux de ce que fait votre entreprise, quel est le corps de métier, le ravalement, la peinture?
Oui, plus généralement, les travaux de seconde œuvre. Nous avons face à nous un enjeu majeur qui est de participer à la rénovation énergétique, puisque l'énergie qui coûte la moins chère est celle qu'on ne consomme pas, et donc ça nous concerne totalement pour rendre les bâtiments plus économes.
Mmh. Quels sont les grands chantiers que vous avez pu mener en termes de rénovation? On vous a vu très présent pendant ces 15 ans, par exemple, sur le centre ancien à Orléans.
Oui, le centre ancien, il faut dire que la ville d'Orléans s'est totalement rénovée. Il suffit de se promener et de lever un peu les yeux pour s'apercevoir qu'Orléans est une très jolie ville avec des façades embellies. Beaucoup d'Orléanais sont dorénavant fiers de faire visiter leur ville à des gens qui la connaissent peu. On a participé à cette rénovation des façades comme tant d'autres. Et puis sur le bâtiment et le patrimoine bâti sur le bâtiment ancien, mais aussi sur des bâtiments neufs comme des bâtiments publics.
Alors avant de parler de l'actualité économique, des informations locales et de la vie de votre entreprise, une question d'actualité nationale. Encore cette semaine, on ne peut pas éviter d'aborder le projet de loi de réforme du Code du travail qui suscite bien des débats. Nous en parlions encore la semaine dernière avec l'invité Emmanuel Vasnex, PDG du groupe LSDH. Les étudiants, les salariés et les syndicats sont dans la rue pour protester contre ce projet de loi. Quel est votre avis sur ce projet qu'on présente comme pro-patronat ?
Si je peux me permettre, Rémi, ce ne sont pas les étudiants, les salariés, ce sont des étudiants, des salariés.
Quelques, une poignée, c'est ce que vous dites ?
Évidemment. Je connais beaucoup d'étudiants, beaucoup de jeunes aux quatre coins du territoire, aux quatre coins de l'Europe et un peu plus dans le monde, qui travaillent, qui se forment, qui ont compris les enjeux de la mondialisation et que la seule issue possible était de relever ce défi.
Aujourd'hui, est-ce que la situation est en quelque sorte bloquée, puisque ce sont une poignée de décideurs, de quelques étudiants, quelques syndiqués décident de l'avenir du pays en quelque sorte?
Oui, alors je trouve peut-être un peu facile de tomber dans la caricature et je ne voudrais pas participer à ça, même si je pense que les enjeux sont tellement importants. Quand on voyage un peu, quand on a la chance de traverser les frontières, et qu'on voit la façon dont les pays émergents émergent, dont les pays du tiers-monde essayent de sortir du tiers-monde, parce que la mondialisation, quelque part, c'est ça. C'est le droit des peuples de s'enrichir, de sortir de la pauvreté. Et en faisant cette démarche qu'on ne pourra jamais leur reprocher, ils remettent en cause nos avantages acquis et notre équilibre que nous avons, nous, en tant que pays riches et développés depuis des décennies. Et cette mondialisation, même si elle est dure et cruelle pour certains, incontestablement, met en cause nos fondamentaux.
Est-ce que cette loi, elle va à l'encontre des entreprises, du développement économique, de l'investissement pour les entreprises, la prise de risque pour les patrons, peut-être, largement ?
Elle partait d'une bonne intention, c'était de libérer le carcan du Code du travail et plus globalement du monde du travail. Et finalement, on pourrait finaliser par une taxation des CDD, ce qui est invraisemblable. Imaginez libérer le monde du travail en taxant les contrats de travail, c'est aberrant.
Alors c'était une proposition qui avait été avancée par le Premier ministre. François Hollande, qui était l'invité de France 2 jeudi soir, a voulu rassurer en quelque sorte et calmer la colère des patrons en disant qu'effectivement il n'y aurait pas de surtaxation des CDD. Vous y croyez, vous n'y croyez pas ?
Bah, surtout que j'y comprends rien, et donc je peux croire en rien. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on taxe une entreprise, ce qui est un jeu assez facile et un jeu dans lequel de nombreuses personnes s'engouffrent, inévitablement cette taxe se retrouve dans son prix de revient, donc dans son prix de vente, donc ça surenchérit l'objet ou son service qu'elle produit et la rend de moins en moins compétitive. Et notre problème, me semble-t-il, bien que je ne détienne pas la vérité au jour d'aujourd'hui, est que la compétitivité de la Maison France est très mauvaise par rapport aux produits étrangers et notamment ceux des pays émergents.
On parle plusieurs syndicats, personnalités de gauche proposent de passer aux 32 heures. C'est une proposition qui est également faite par les manifestants, ceux qui ont pris place sur les places d'ailleurs de plusieurs villes, les grandes villes de France. Mmh. Selon vous, est-ce que c'est possible de passer aux 32 heures en tant que chef d'entreprise ?
Demander aux Français de se mettre en short alors que les travailleurs des pays émergents relèvent les manches me paraît un contresens incroyable.
Travailler 32 heures et être payé 35, c'est impossible. Compétitivité encore là?
Bon, ça va surenchérir les produits français, ça donnera moins de travail à nos usines et on aura toujours cet enlisement qui va s'inscrire dans le temps avec une paupérisation de l'économie française.
On en reparlera évidemment, notamment avec le dossier des travailleurs détachés, tout cela. Compétitivité, ce sera dans quelques instants. On marque une pause sur Méga FM et on se retrouve juste après ça.
Retour de la puce à l'oreille dans un instant sur Méga FM.
Méga FM. Méga FM.
Le samedi, 10h-10h30. La puce à l'oreille. Rémi Si.
La suite de votre émission, La puce à l'oreille sur Méga FM avec mon invité Antoine Metz, PDG de l'entreprise Metz SA, associé avec Christophe Guérin. Il est bon de le rappeler. Parlons à présent Europe avec des problématiques qui gravitent autour des entreprises, notamment du BTP. Un dispositif semble ne pas faire l'unanimité auprès des chefs d'entreprise du secteur du bâtiment. C'est bien sûr la possibilité de travailleurs détachés, un dossier qui exercera une forme de dumping social sur les entreprises françaises. Ma question, elle est finalement assez simple, Antoine Metz. Est-ce qu'il y a une concurrence déloyale pour les entreprises françaises avec ce dispositif qui date de 2012?
Non seulement elle est déloyale, mais elle est massive. Assez fréquemment, on reçoit des propositions d'offres de main-d'œuvre détachées à des taux horaires défiant toute concurrence, qui sont d'ordre de 16 à 17 euros de l'heure. Cette problématique se contourne très facilement lorsqu'il y a des contrôles, c'est-à-dire que tout l'enjeu est de jouer sur le temps de travail, c'est-à-dire que les salariés sont officiellement détachés, sont officiellement rémunérés sur 35 heures ou 39, et en fin de compte, ils en font 45 ou 50, et c'est absolument invérifiable.
Donc, une entreprise française ne peut pas rivaliser avec des coûts du travail qui seraient plus compétitifs? Est-ce qu'on peut jouer sur la qualité?
C'est impossible de concurrencer un taux horaire à 15 ou 17 euros européens avec le coût du travail en France. C'est absolument impossible.
Vous appelez à la suppression de ce dispositif?
On appelle surtout à une uniformisation des règles communautaires.
Est-ce que ça pourrait passer par un SMIC européen? Une question que j'ai déjà posée à Emmanuel Vasnex.
En tout état de cause, il faut que ça passe par une égalité de traitement sur tous les pays européens, tant en termes d'hygiène, santé, sécurité et code du travail.
Parlons à présent de la vie de votre entreprise avec en premier lieu le volet formation. François Hollande avait fait de ses priorités justement la formation et particulièrement celle des jeunes et des chômeurs. Comment vous, dans votre entreprise, vous organisez la formation?
Nous sommes très attachés à ce thème qui rentre plus largement dans une logique de responsabilité sociétale de l'entreprise dont peut-être nous allons parler un peu plus tard. Nous considérons que porter de l'intérêt, de l'attention aux collaborateurs de façon à mieux les former, tant en matière d'hygiène, de santé, de sécurité, mais aussi à de nouvelles techniques, de nouvelles technologies, qu'elles soient matériaux ou matérielles, nous paraît indispensable pour le bien-être du collaborateur et puis aussi notre performance tout simplement sur notre marché.
Alors, formation des salariés, des compagnons sur le terrain, les nouvelles techniques, notamment liées à l'économie, aux bâtiments positifs en énergie?
Tout à fait. Nous avons la chance de vivre une mutation dans le bâtiment qui est profonde, dont on ne connaît pas forcément encore tous les enjeux, mais qui nous pousse à nous remettre en cause et à faire entrer de nouvelles techniques, tant au niveau des matériaux, encore une fois, que des matériels qui évoluent considérablement.
On parle d'alternance souvent pour les jeunes, un sujet qui, j'imagine, intéresse nos auditeurs. Est-ce que vous êtes de ceux qui disent que l'alternance, ce dispositif-là, était mis à mal, qu'on a supprimé beaucoup d'aides pour les entreprises, pour accueillir des jeunes?
On supprime des aides le lundi, on promeut ce système le mardi, donc incompréhensible. Par contre, j'ai le sentiment que c'est une très très belle opportunité de formation pour les jeunes. Mon fils d'ailleurs est en alternance, il s'en porte très bien. Des heures de cours pour apprendre et des heures pour l'entreprise pour mettre en application. Je trouve que c'est un équilibre d'ailleurs que les Allemands ont totalement réussi.
François Hollande, président de la République, a mis en place les contrats d'avenir et les contrats de génération. Est-ce que justement vous êtes amené à accueillir des jeunes et à faire le relais avec les aînés qui partent en retraite? Est-ce que vous avez accueilli au sein de votre entreprise un dispositif comme le contrat d'avenir ou les contrats de génération?
Non, honnêtement à la marge, mais on se sent responsable quand on voit un jeune nous demander un stage ou une formation. On se sent obligé de lui tendre la main et malheureusement on ne peut pas le faire systématiquement, mais on est quand même dans cette logique de tendre une main.
Autre sujet qui concerne la vie de votre entreprise, ce sont les normes techniques et environnementales. On parlait produits, matériaux tout à l'heure. Quel est votre regard sur ces normes parfois lourdes et contraignantes? Très concrètement, comment ça peut se traduire dans le bâtiment?
Écoutez, j'entendais un patron de grand groupe national s'exprimer sur ce sujet. Il a demandé à ses collaborateurs de lister et d'inventorier toutes les normes qui encadraient l'acte de construire. Ils ont fait le calcul à plusieurs fois puisqu'ils en ont trouvé plus de 3500.
Donc, c'est trop.
Bon, c'est pas que c'est trop, c'est que c'est incompréhensible et que c'est devenu un maquis dans lequel on a beaucoup de mal à extraire une construction à un juste prix. Parce qu'il faut bien voir que à chaque fois qu'une norme arrive, c'est pour surenchérir le prix. C'est le consommateur au final qui paye.
Gérer une entreprise est particulièrement dans le domaine du bâtiment. Est-ce un casse-tête aujourd'hui? Quelle est par exemple votre analyse sur la fiscalité réservée aux entreprises, d'ailleurs pas qu'aux entreprises du secteur du bâtiment? Fiscalité trop lourde en France?
Moi, j'ai un peu de gêne à vous dire ça parce que on en parle systématiquement. On a une fiscalité française qui est confiscatoire, hein, qui prive ceux qui travaillent d'une grande partie de leur fruit de leur travail. On a un prélèvement obligatoire par rapport aux pays développés les plus importants. Ça asphyxie évidemment l'économie française, ça démotive les plus motivés, ça exaspère.
Malgré toutes ces normes, vous développez depuis plusieurs années, on en a parlé il y a quelques instants, un projet d'entreprise éco-responsable. C'est un projet RSE, la responsabilité sociale, sociétale des entreprises. Qu'est-ce que cela renferme? Cet impact?
Alors, on a, avec Christophe Guérin, on a un sentiment très profond, c'est que la performance économique de l'entreprise, qui est indispensable, une entreprise qui n'est pas performante économiquement est une entreprise en grand danger. Cette performance économique est dépendante de sa performance sociale et de sa performance environnementale. Ce sera le fruit de ces deux performances qui vont lui permettre d'être performante économiquement. D'ailleurs, il y a des statistiques qui démontrent assez bien, j'en discutais avec la Banque de France il y a peu de temps, que les entreprises qui sont largement impliquées en RSE s'en sortent plutôt mieux que d'autres.
Alors concrètement, comment ça se traduit sur le choix des matériaux, sur le choix des peintures par exemple?
Oui, c'est faire en sorte que les produits qu'on utilise aient de moins en moins d'impact sur notre environnement. Utiliser par exemple d'une manière très concrète des nettoyeurs qui soient plus thermiques, très bruyants mais électriques. Très peu bruyants, qui ne rejettent pas de CO2, faire en sorte qu'on ait des produits biodégradables, faire en sorte qu'on récupère de plus en plus sur nos chantiers toutes les eaux résiduelles, qu'elles n'aillent plus à l'égout. Ce sont un cumul de petits gestes qui fait que ce cumul fait qu'on a moins d'impact sur notre environnement.
Les pouvoirs publics et vos clients sont sensibles à cette démarche éco-responsable?
Tout à fait, à condition qu'elle ne soit pas plus onéreuse. C'est-à-dire qu'ils sont sensibles au fait qu'on porte une attention à notre environnement, évidemment à leur cadre de vie, la pollution sonore, olfactive, mais ils ne considèrent pas que ce doit être un surcoût.
Écoutons de la musique, c'est un extrait que vous avez choisi, c'est Alain Souchon. Si en plus il n'y a personne, vous l'avez choisi, c'est un extrait, on l'écoute tout de suite.
Abderrahman, Martin, David. Et si le ciel était vide? Tant de processions, tant de têtes inclinées, tant de capuchons, tant de peurs souhaitées, tant de démagogues, de temples, de synagogues, tant de mains pressées, de prières empressées, tant d'angélus. Si en plus il n'y a personne, Abderrahman, Martin, David, et si le ciel était vide? Il y a tant de torpeurs, de musique antalgique, tant d'antidouleurs dans ces jolis cantiques. Il y a tant de questions et tant de mystères, tant de compassion et tant de revolvers, tant d'angélus. Personne. écrasante, toutes ces armes de poing, toutes ces femmes ignorantes, ces enfants orphelins. Si ces vies qui chavirent, ces yeux mouillés, ce n'était que le plaisir de s'y couiller. Et l'Angélus.
Une très très belle chanson signée Alain Souchon. Si en plus il n'y a personne, pourquoi ce choix, Antoine Metz ?
Alors cette chanson me touche beaucoup. Elle résume bien mieux que je ne pourrais le faire ce que je pense profondément. Notre société est en déséquilibre, elle se cherche, avec des enjeux sociétaux absolument énormes, qui d'ailleurs peut expliquer les tensions que les jeunes expriment en ce moment. Et Alain Souchon nous dit tout dans la chanson. Pour moi, il y a la réponse.
Tout est dit. De manière moins politique et de manière plus pragmatique, parlons d'Orléans et de la rénovation du centre-ville. On en parlait il y a quelques minutes, de la rénovation des façades et plus particulièrement de la rénovation des habitats. Cela se traduit par un grand plan sur la rue des Carmes et l'ancien hôpital Madeleine. Est-ce que ça ouvre des perspectives pour de futurs chantiers, de l'investissement public sans cesse des collectivités locales ?
Oui, je sais que les élus locaux sont très attachés à cet investissement local. Ils ont un équilibre qui est très difficile aussi à trouver entre le fonctionnement et l'investissement. On leur demande toujours plus d'investissement et toujours plus de fonctionnement et de moins en moins de fiscalité. Donc, c'est pas simple. Évidemment, c'est une très bonne nouvelle pour Orléans, une très bonne nouvelle pour nos entreprises. Ce sont des centaines de milliers d'heures pour nos compagnons.
Les politiques du département et de la région en matière d'investissement public vont dans le bon sens, notamment celle du département. Vous avez été très présent sur la construction du nouveau collège de Trénoux. C'est important que les pouvoirs publics comme ça investissent. On va parler d'ici quelques mois d'un nouveau collège au nord d'Orléans.
C'est très structurant encore une fois pour notre territoire et les élus locaux sont très attentifs à ce que nos entreprises aient de l'activité. C'est incontestable, ils le font avec des équilibres très difficiles à trouver pour eux, mais ils sont très attentifs à ça.
Le 12 mai prochain, au Zénith d'Orléans, se tiendra le salon 2000 emplois, 2000 sourires. Mmh. C'est une belle initiative.
Oui, toutes ces initiatives de genre sont à promouvoir. C'est une très très belle initiative, incontestablement.
Parlons pour terminer de vos projets, de vos ambitions. Votre entreprise soutient de nombreux projets associatifs ainsi que des clubs sportifs. C'est toujours le rôle, et plus que jamais le rôle d'une entreprise, de porter ses projets, de soutenir le bénévolat.
Soutenir le bénévolat, faire en sorte que son territoire soit attractif, captif, que l'économie fonctionne le mieux possible. Oui, c'est son rôle, avec ses moyens, mais c'est son rôle.
Est-ce que vous avez des projets encore de développement pour votre entreprise, encore des idées ?
Travailler de mieux en mieux.
Perfectionner ?
Oui, être le plus à l'écoute des collaborateurs et des clients et de faire en sorte qu'on soit reconnu comme une entreprise responsable et professionnelle.
Est-ce que vous avez des projets plus personnels maintenant ?
À l'instant, beaucoup, mais je vais les garder pour moi, si vous voulez bien.
Ma question va être très très simple. Je l'ai déjà posée la semaine dernière à Emmanuel Vasnetz. Est-ce qu'un jour, vous avez l'ambition, la volonté de partager votre savoir-faire au travers d'un engagement politique ?
Associatif peut-être, politique non, je ne m'en sens pas les capacités.
Et voilà, le message est passé. Dernière séquence de l'émission, un mot, une phrase sur le sujet de votre choix, une citation, un message à faire passer à vos clients, aux Loiretains, de manière plus large, au pouvoir public peut-être.
Alors, cette citation, évidemment pas de moi, mais je la trouve exceptionnelle. Si vous pensez que l'aventure est dangereuse, essayez la routine, elle est mortelle.
Sans commentaire.
Sans commentaire.
Et je rappelle que votre entreprise est présente tout au long de la Foire Expo dans le hall principal durant 10 jours de ce parc Expo à Orléans.
La puce à l'oreille. La puce à l'oreille.
Merci Antoine Metz d'être venu ce matin répondre à mes questions. Merci à vous d'avoir suivi cette émission qui sera retrouvée sur le www.megafm.fr rubrique La puce à l'oreille. Merci à Stéphane et à Théo pour la réalisation. La semaine prochaine, je recevrai Marc Godet, vice-président du Conseil départemental du Loiret, pour parler ruralité, agriculture et mobilité. Une émission en direct de la foire de la Saint-Georges à Pithiviers. Mais tout de suite, c'est Lydia pour le circuler. Il y a tout à voir. Bonjour Lydia.
Bonjour Rémi. Effectivement, nous sommes, vous l'avez annoncé, en direct de la foire Expo d'Orléans. Et puis un circuler tout à voir spécialement dédié à cette foire. Nous allons nous y plonger tout de suite. Et d'ailleurs, nous aurons l'occasion de vous retrouver. Vous allez sillonner un petit
je
peu
pars les... en Tintin Reporter.
Vous partez en Tintin Reporter. Je vous dis à dans quelques minutes.
Pas de souci, à tout de suite.
À tout de suite, on marque une pause juste après le Zoom Région. On se retrouve pour circuler tout à voir en direct de la Foire Expo.